9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, à votre bonne santé et bon matin. Et quand je dis bon matin, c'est que Karima Shadibaou est avec nous.
Bon matin, Philippe. Bon matin à nos auditeurs et auditrices. Quel plaisir de vous retrouver.
Ça fait plaisir de vous voir, Karima.
Mais moi aussi, plaisir partagé.
Vous êtes coach familial parental, vous êtes formatrice, enseignante en communication interpersonnelle et cofondatrice de l'ENAT. Votre école de naturopathie, maintenant que vous dirigez d'une main de maître à Saint-Ouen.
Oui, c'est ça.
Une main de maîtresse.
Non, j'aime bien main de maître.
D'accord,
j'aime bien.
D'accord.
Non, j'aime
merci,
bien.
Merci, Karima.
Voilà. Non, moi j'aime comme ça. C'est bien.
Bon, vous savez qu'on aime faire partager avec vous les gens qui vont au bout de leurs idées.
Oui.
Il faut absolument encourager, parce que souvent les gens ont des rêves, notamment faire des livres, les écrire. C'est pas simple d'écrire un livre, surtout quand on est l'artisan de A à Z de son propre livre. Et vous avez repéré sur les réseaux sociaux un livre, Karima.
Absolument.
On en a parlé la semaine dernière, voilà. Hein, et je vous ai dit banco.
On y va.
Ouais, voilà.
On encourage.
Ouais, exactement.
On soutient, on supporte.
Exactement.
C'est dans notre ADN. Voilà. Et donc, c'est Sabrina qui est là, notre invitée, et qui a écrit un livre.
Alors,
donc,
Sabrina, qui est connue sur les réseaux sociaux. Bonjour, Sabrina.
Bonjour.
On vous connaît comment sur les réseaux?
Alors, alias Sabhurt.
D'accord.
Parce que le cœur est très important pour moi.
D'accord. Mmh. Mais en English, c'est mieux.
Voilà. C'est ça. Oui, ça sonnait mieux, je trouve.
Oui, ça va très bien.
Alors aujourd'hui, vous êtes naturopathe, hein, vous êtes spécialisé, vous, dans l'accompagnement des enfants, des ados et des femmes qui sont TDAH. On verra pourquoi, et c'est un rapport avec votre histoire. Mmh. Vous avez d'ailleurs même créé, toujours en rapport avec le cœur, une méthode qui s'appelle Deep Heart. Mmh. Vous le traduisez comment?
Alors, c'est vrai que traduit, parce ça que donne cœur profond.
Ça veut dire cœur profond, c'est pour ça que je vais demander.
Mais honnêtement, non, ça n'a pas tellement de sens quand on le traduit. C'est surtout en anglais, ce que ça voulait dire, c'est que c'est au-delà du simple conseil. On est vraiment dans un partage de cœur à cœur, en fait, c'est ça. Mmh.
Alors, vous avez eu plusieurs vues dans votre vie. Hein. Vous êtes d'abord juriste de formation. Vous avez une première carrière dans la fonction publique.
Tout à fait.
Il vous arrive, ce qui arrive à beaucoup de gens, un burn-out. Et donc, à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes plus aligné et qu'il faut sortir de l'autoroute.
Exactement. Parfois, il y a des périodes, en fait, où vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, mais vous ne franchissez pas le pas de partir.
Vous restez.
Voilà. Parce que la peur, forcément, le changement.
Oui.
Et parfois, il faut défaisser du destin. Et pour moi, le burn-out, ça a été en quelque sorte la fessée du destin qui m'a fait dire, plus jamais quoi. Plus jamais je revis ça.
Ouais.
Et c'est ce qui m'a amené à tout quitter, à quitter la sécurité, etc. Et à lancer mon entreprise et à me former à la naturopathie pendant 2 ans.
Quand on parle de sécurité, c'est la sécurité d'un salaire qui tombe tous les mois. Hein.
Voilà, c'est ça, on parle de ça exactement.
Oui, sécurité financière et matérielle, quoi, qui donne un emploi. Hein. Oui, c'est
mais
clair.
On ne dit pas toujours aux gens quel est le prix de la liberté.
C'est vrai.
On vous vend du rêve, mais après, on ne vous explique pas que peut-être pendant 2-3 ans, c'est compliqué.
C'est ça, exactement. La liberté a un coût, en fait.
Mmh. Mmh.
Vous êtes donc formé à la naturopathie. Alors, il y a deux événements qui sont importants de votre vie. C'est qu'en 2013, on vous diagnostique une maladie génétique.
Tout à fait. La maladie d'Ehlers dans l'os, qui n'est pas très connue. Et qui est une maladie qu'on m'a diagnostiquée après plus de 15 ans d'errance médicale. Donc, ensuite, j'ai été moi diagnostiquée la première. Et ensuite, on s'est rendu compte que toute ma famille, quasiment, à part une ou deux personnes, l'avait.
C'est pour ça que c'est génétique. Hein.
C'est vrai
qu'il y a des familles qui ont cette maladie.
C'est
un syndrome, c'est quoi
c'est un syndrome. Oui. On ne l'appelle pas vraiment maladie, mais c'est une maladie quand même du tissu conjonctif. Et comme le tissu conjonctif, c'est quelque chose qui est partout dans notre corps, dans tous les organes, donc ça crée plein de difficultés en fait, sur différents systèmes, on va dire.
Et si vous êtes là aujourd'hui, alors c'est pour nous parler de votre premier livre qui s'appelle
L'enfant TDAH, en route vers le bien-être.
J'accompagne mon enfant avec la naturopathie.
Voilà.
Puisqu'il y a un autre événement qui est important dans votre vie, c'est que votre fils à l'âge de 6 ans est diagnostiqué. Alors on pose le diagnostic de TDA. Et alors, moi j'allais dire, mais pourquoi aussi tardivement? Mais lui, il a été au contraire diagnostiqué très précocement pour un TDA.
Pour être honnête, dès les premiers mois de sa vie, j'ai tout de suite vu qu'il était différent. Ça peut paraître en fait surprenant, mais c'est vrai que c'était un bébé qui bougeait sans cesse. Mais quand je te dis mains et pieds, c'était impressionnant. Et donc, au final, plus il grandissait, plus cette hyperactivité motrice était flagrante, en fait. Donc, moi, dès la maternelle, alors souvent le problème de ces enfants-là, c'est que quand ils rentrent dans le système scolaire, c'est là que les choses se compliquent, puisque à la maison, on s'adapte un maximum, c'est des enfants avec lesquels on va sortir, etc. Mais par contre, à l'école, évidemment, il y a plus de règles, il y a un cadre qui est plus contraint, et là, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc, dès qu'il est rentré à l'école, ça a commencé avec des retours, voilà, il est trop agité, il n'écoute pas, il n'est pas attentif, etc. Bon, moi, déjà, j'avais vu qu'il y avait cette hyperactivité motrice. Donc, en fait, quand il avait 4 ans, déjà, moi, j'ai pris contact avec un service hospitalier. Et il y a eu presque 2 ans d'attente. Et c'est pour ça qu'à 6 ans, on a eu le diagnostic.
Mais encore une fois, c'est tôt parce qu'en général, ils sont diagnostiqués bien plus tard.
Beaucoup plus tard, oui, vers l'adolescence ou quand ils rentrent, en fait, vers l'âge de 11 ans, 12 ans, quand ils rentrent au collège et que les rythmes changent, qu'il n'est pas avec la même maîtresse, par exemple, à l'école élémentaire, parce qu'il passe la journée avec la même maîtresse. Mais quand il arrive au collège, où on voit qu'il y a des rythmes, il y a de la rigueur, il y a un emploi du temps et qu'il doit respecter en fait ces différents rythmes et qui ne vont pas avec ses propres rythmes à lui. Et c'est là où les parents se disent, tiens, il y a peut-être un problème. Ou que pendant le cours, où il doit être concentré pendant 2 heures de maths, par exemple, en cours de maths, et où il va plutôt observer tout ce qui se passe à l'extérieur, ou être sur son téléphone, ou être au téléphone quand il le sort en classe, tout en sachant que c'est interdit, n'est-ce pas?
Bon, s'il a 6 ans, voilà. Il n'a pas encore de téléphone, rassurez-moi.
Non, là, je parle du collège. Vous savez, Philippe, il y en a, il y a certains enfants qui, à 6 ans, ont déjà des téléphones. Ils sont hyper connectés, déjà. Mais ces enfants, en fait, vont manifester une agitation, comme l'a dit Sabrina, et qui va plutôt alerter. Et qui n'est pas une agitation naturelle. Quand je dis naturelle, dans le sens qui est commune ou normale, entre guillemets, parce que la normalité, il faudrait aussi la définir, qui est, et donc c'est là où les enseignants, ou même les parents, vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de l'ordre, parce que au niveau de leur sens, de leurs 5 sens, de la réceptivité de toutes les informations et de l'hyperstimulation qu'il y a tout autour, va faire que il va y avoir une difficulté pour rentrer aussi dans les apprentissages.
Mais vous, Sabrina, vous saviez pas exactement quoi, mais vous saviez que votre enfant était différent quand même.
C'est ça. Je n'avais pas de mots dessus.
Oui, vous n'êtes pas dit il est hyperactif.
Non, je ne me suis pas dit ça. Mais voilà, je ne comprenais pas pourquoi il se mettait constamment, par exemple, en danger sur des choses sur lesquelles il s'est déjà fait mal, par exemple. Voyez, ça, c'est typique de l'impulsivité. Un enfant classique, il va se faire mal une fois.
Alors, vous voyez, parce que l'impulsivité, c'est quelque chose que vous mettez à côté de l'hyperactivité.
Oui, parce qu'en fait, alors le trouble de l'attention, on l'appelle avec ou sans hyperactivité, parce que dans mon cas, mon fils à moi était hyperactif, mais tous les enfants qui ont ce trouble de l'attention n'ont pas cette hyperactivité. Ouais. Il y en a qui sont pas agités en fait. Mais
l'hyperactivité et l'impulsivité, c'est la même chose?
Non.
Non, pas tout à fait. Non. Ouais. L'hyperactivité, c'est vraiment plus moteur, c'est-à-dire que vraiment besoin de bouger physiquement. Ouais. L'impulsivité, c'est plus le fait que c'est des enfants qui passent à l'action avant de réfléchir en fait. Vous voyez ? Et du coup, ils n'ont pas le temps de mesurer le pour et le contre de ce qu'ils sont en train de faire. Donc en fait, ils se retrouvent souvent dans des situations qu'ils n'ont pas souhaitées, mais parce que simplement, ils n'y ont pas pensé avant qu'en faisant telle action, ça allait provoquer telle chose.
Exactement. Et généralement, quand on les voit, moi, quand je les reçois au cabinet, c'est ils ne voient pas et les parents me disent, mais s'il vous plaît, apprenez-lui à prendre conscience du danger, que ça, il ne doit pas le faire. Il le sait. Donc la mère, le père, les parents présupposent qu'il sait, mais qu'en fait, il est tellement donc dans cette, comme tu l'as dit, exactement, que finalement, il n'a pas le temps de réfléchir.
C'est ça.
Il n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'il est dans cette aux prises avec son cerveau reptilien, l'archaïque ou à l'émotionnel, parce que ça va susciter une sensation forte. Et donc, du coup, au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau de cette partie-là du néocortex, il n'y a pas le temps. C'est comme si l'information n'y arrivait
pas. Vous
la
montrez, mais à la radio, Karima,
ça
passe pas.
Oui, pardon, je montrais le préfrontal, voilà. Tellement l'habitude d'être filmé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je le montre, là, si, c'est ici, le niveau. Quand je dis ici, c'est-à-dire le préfrontal.
Entre les sourcils.
Entre les sourcils, voilà, exactement. Et on l'appelle le cortex orbitofrontal, voilà. pour être clair. Et donc, du coup, l'information n'arrive pas à cet endroit qui va donner, en fait, le discernement, le risque, le danger, de pouvoir le calculer, de pouvoir analyser. Donc, du coup, l'enfant est aux prises avec ça et il peut récidiver plusieurs fois. Et les parents disent, mais apprenez-lui, moi je comprends pas, il le sait. Et alors, les parents s'énervent, se mettent à crier, à hurler, à mettre des punitions à tout va pour que l'enfant comprenne. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire les choses.
Sabrina, pour toutes les mamans qui nous écoutent, qui ont peut-être, comme vous, ce sentiment que leur enfant a quelque chose, mais elles savent pas dire quoi. Qu'est-ce qui peut les alerter? Qu'est-ce que vous avez compris avec du recul? Parce qu'un enfant qui s'agite n'est pas forcément hyperactif, en fait.
Oui, il y a ça aussi, bien sûr.
Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait alerter les mamans qui nous disent « Ouais, il a peut-être quelque chose, mon enfant ».
En général, c'est quand ça va pas bien dans plusieurs sphères de leur vie. Vous voyez, quand à l'école, ça se passe pas bien. À la maison, avec la fratrie, par exemple, ça se passe pas bien. Dans le réseau social, dans la famille, c'est compliqué. Ça, c'est des signes qui doivent alerter. Parce que c'est vrai que je discute beaucoup aussi avec des familles qui ont des enfants TDAH que j'accompagne. Et en fait, il y a un moment donné où ils en arrivent même à ne plus avoir de vie sociale.
Oui.
C'est-à-dire que l'enfant est tellement difficile à canaliser en dehors de ses repères qu'en fait, ben, on finit par se priver d'aller chez les uns, chez les autres. Donc ça, c'est quand même des signaux forts. Quand l'école vous dit ça se passe pas bien, qu'à la maison, c'est compliqué, voilà, il y a plusieurs sphères. Là, il faut quand même s'inquiéter.
Ouais, donc multicontextuel. C'est-à-dire qu'on puisse voir ça dans différents contextes, donc avec ses camarades, à l'école, à la maison, avec les cousins, la famille, et même dans les activités sportives aussi, Philippe et Sabrina. On le voit aussi, par exemple, dans le judo ou dans n'importe quelle, la natation, là où ça va aussi demander de canaliser, en fait, son énergie et de canaliser son attention, d'accord? Où il doit, justement, il y a une attente, en fait, de la part, soit de l'enseignant, soit du coach sportif, soit de son équipe, et que finalement il se retrouve un peu comme isolé ou comme avec beaucoup trop. En fait, moi j'aime bien le comparer à quelqu'un qui a différents écrans devant lui, d'accord, et avec sa console, et quelle manette sur laquelle je vais appuyer, et donc il y a différents écrans et lequel je vais regarder, et quel bouton je vais actionner, et sur quoi je vais agir.
C'est ça.
Et donc c'est cette difficulté en fait à se focaliser, voilà, sur un point, deux points, trois points. Mais lui, et en fait, c'est dire aux parents aussi, c'est que il faut le prendre comme étant une force et pas une faiblesse. Que notre enfant, il n'est pas porteur d'handicap. On l'appelle trouble de l'attention. On l'appelle pas maladie, parce que c'est pas une maladie. Trouble, parce que c'est.
Oui, mais là, pourquoi trouble justement?
Parce que justement, ce dont tu parlais, c'est typique du trouble. Le trouble de l'attention, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, pour être attentif, il faut avoir des filtres qui fonctionnent. C'est-à-dire que là, vous voyez, je vous parle, je me concentre sur ce que vous me demandez. Mais en fait, je fais abstraction du reste. Un enfant TDAH ou un adulte, c'est pareil, ne fait pas de filtre. Donc en fait, il entend tout ce qui se passe derrière la porte, tout ce qui se passe à côté, à gauche. Vous voyez, tout arrive au même niveau. Et c'est ça qui est compliqué. C'est comme si ils étaient constamment dans un brouhaha violent, en fait, qui est fort.
Oui, absolument. Et même dans la pensée, parce qu'en fait, il analyse aussi ce qui se passe. C'est-à-dire, il prend l'information de l'extérieur, ça va aller très très vite, et il va penser aussi en arborescence. Généralement, on trouve aussi chez les TDA cette pensée en arborescence. Et donc, il ouvre une fenêtre là, une fenêtre là, et puis après, quand on lui dit, oui, ok, sur une leçon, par exemple, qu'est-ce que tu as compris? Et puis, il va aller dans des petits détails, Non, mais fais-moi un résumé. Impossible de faire le résumé. Parce que justement, il n'arrive pas à discriminer qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Parce que justement, il va dans le détail.
Exactement.
Eh bien, on en parle de ce trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité ce matin jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on les connaît surtout sous l'appellation des enfants hyperactifs,
Oui.
On en parle ce matin, mais c'est vrai que l'hyperactivité, c'est la partie visible, mais il y a d'autres.
Il y a d'autres, oui, d'autres symptômes
qu'on voit moins.
Absolument.
Dans ces enfants TDA avec ou sans. Pas, ou hyperactivité.
Et c'est vraiment dans quand on parle de cette attention, cette capacité en fait, parce que bon, les psychologues ont vu, hein, enfin il peut se passer des tests, les neuropsychologues et les neurologues aussi, hein, cette capacité en fait de maintenir notre attention, c'est, elle va varier selon les âges. Et généralement les enfants donc qui ont un déficit de maintien de cette attention, déjà de la capter, on le voit déjà à la maternité, quand le pédiatre vient faire passer certains tests au bébé, exactement, avec au niveau des yeux, est-ce qu'il suit l'objet ou pas, l'exercice quand on va à la PMI, et l'exercice avec les petites vaches là qui font meu, est-ce qu'il se retourne quand il entend, et puis les bâtons de pluie et tout ça. Alors moi je me souviens, je faisais tous ces tests là, pour voir est-ce que l'enfant justement suit, et cette capacité à maintenir son attention. C'est pour ça que moi je dis souvent aux parents d'enfants, alors bien sûr à l'école tout le monde va dire ah mais il est hyperactif, c'est l'étiquette qu'on pose sur tous les enfants.
D'abord c'est l'étiquette qu'on pose.
C'est l'étiquette qu'on pose,
c'est ce qu'on voit.
Dès qu'il remue un petit peu on dit ah, faudrait peut-être vous l'emmener voir un psychologue, il est peut-être hyperactif. Non, il est peut-être hyper stimulé, oui. Peut-être, mais il est peut-être pas hyperactif. C'est pas, je veux dire, il y a quand même des batteries d'examens à passer. Les enfants, moi, que j'accompagne, ils passent leur journée à l'hôpital, en hôpital de jour, et ils passent devant plusieurs spécialistes avec des tests très pointus pour ensuite pouvoir poser ce diagnostic-là. Donc, nous, en tant que parents, on va être, comme on l'a dit tout à l'heure, sensibilisés sur certaines choses, avoir cette sensibilité critique à observer son enfant et à remarquer les différences dans le multi-contexte. Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il prend l'information? Comment est-ce qu'il la restitue? Comment est-ce qu'il rentre en relation avec les autres? Parce que la plupart du temps, les enfants atteints d'un trouble vont être maladroits, vont bousculer. Mais oui, mais c'est mon copain. Et puis, boum, ils ont pas cette notion, en fait, de la distanciation sociale.
C'est pas
intentionnel. Ou de la... Voilà, exactement.
C'est ça. Il leur manque ce frein, en fait.
C'est ça.
Tu vois, voilà, même dans le sentiment positif, en fait. Ils ne savent pas faire.
Ouais. Il va dire, ah, je t'aime trop, puis il va le prendre, il va l'étouffer. Il dit, mais je vais exprimer comment je l'aime. Il étouffe presque son petit frère, petit bébé. Alors, les parents en panique. Est-ce qu'on a un psychopathe à la maison, peut-être? Non. C'est juste simplement cette capacité à canaliser, en fait, leur énergie.
Alors, Karima, nous avons avec nous aujourd'hui sur ce plateau Sabrina, alias Sab Heart sur les réseaux sociaux, qui est spécialisée, elle, dans l'accompagnement des enfants, des ados et des femmes qui sont justement avec ce syndrome, ce trouble, mais avec la naturopathie. Et montrer le livre que vous publiez, L'enfant TDAH en route vers le bien-être, et c'est surtout cet accompagnement et spécifique avec la naturopathie. Comme vous le précisez, ça ne se substitue pas à une autre prise en charge. Ça, c'est un accompagnement.
C'est complémentaire.
Qui est le fruit de votre expérience.
Et c'est ça qui est magnifique. C'est le fruit, c'est-à-dire qu'elle l'a vécu, Sabrina l'a vécu dans sa chair, dans ses cellules, et de mettre en place et d'être à la recherche de moyens pour accompagner son enfant. Et donc, moi, je le dis tout le temps, Philippe, il n'y a pas mieux que l'instinct maternel. N'est-ce pas? Donc elle l'a dit tout à l'heure, qu'elle l'a su dès le début qu'il y avait quelque chose. Moi, j'ai eu l'expérience d'une enfant, une de mes filles est dyslexique, et je le dis, je me rappelle, je sens qu'il y a un truc. Oh, mais Madame Baou, votre fille, elle va pas passer le bac. Oh, mais Madame Baou. Et tout le temps renvoyée dans les. Comment on dit déjà l'expression?
Dans les cordes.
Dans les cordes, voilà.
Ça vous va, les
cordes?
Et
de dire, oh, ça me va, les
Sinon,
cordes, voilà.
C'est
dans la boxe. Non, ça me va, Philippe. Et donc, d'être vraiment et de sentir qu'il y a quelque chose. Et là, c'est l'expérience de Sabrina avec son enfant, de qu'est-ce qu'elle a mis en place, et notamment, donc, de pouvoir partager, en fait, cette expérience et de pouvoir partager ce que vous avez mis en place, ce que tu as mis en place, parce qu'on est tutoyé. Voilà.
Trop chic de se tutoyer l'antenne. Vous expliquez, Sabrina, que la période qui précède le diagnostic est une période délicate à gérer. Pourquoi est-ce que c'est cette période-là qui est délicate à passer?
Parce qu'on n'a pas d'explication, on n'a pas de mots, on ne sait pas ce qui se passe, en fait. Donc, en fait, vous avez beaucoup de retours négatifs qui arrivent notamment par l'école, etc.
Vous êtes fait, on va dire, entre guillemets, affiché par les maîtresses.
Ah oui,
par
c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire, tout à fait. En fait, quand vous êtes la maman d'un enfant TDA, surtout avec un H, vous passez au tribunal populaire chaque jour.
Oh là là, c'est terrible ça.
Voilà, chaque jour, dès que vous sortez de chez vous, ça commence, voilà. Alors, il suffit des fois que vous ayez juste dans un magasin et puis voilà que votre enfant commence à toucher parce que bah ils sont tactiles, quoi. Donc, t'as beau lui dire on touche pas, etc. Bah, vous avez toujours quelqu'un qui a une opinion, hein, tu connais, oui. Le regard des gens, etc. À l'école, c'est pareil. Souvent, parfois, j'ai eu des maîtresses très indélicates. Elles attendent pas que de t'isoler, tu sais, pour te parler. Donc, devant tout le monde, elles t'annoncent la couleur. Et toi, bah, tu sais pas quoi dire parce qu'en fait, tu as posé le cadre que tu pouvais. Tu sais que tu n'es pas laxiste. Tu sais que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que cet enfant aille bien. Et finalement, tu obtiens pas quelque part les fruits de tout ça.
Oui.
Et t'as pas de mots. Là, c'est très très dur. Oui.
C'est pour ça que les parents doivent s'armer vraiment. Je dis vraiment armer, hein, de patience, de patience et d'être vraiment resté relié à l'intention du bien-être de son enfant et de faire des enseignants et de toutes les autres adultes en fait qui encadrent l'enfant et qui entourent, qui sont dans son entourage, d'en faire des alliés. C'est pas évident parce que j'imagine ce que tu as pu vivre parce que on te renvoie à l'image de il est mal éduqué, il a pas de limites,
elle tient pas ses gosses.
Elle tient pas ses gosses et on va pas se balader dans la rue avec notre dossier médical, d'accord, que mon enfant est un TDA, mon enfant est un... Non, c'est franchement, et on en parlait tout à l'heure hors antenne, Philippe, avec Sabrina, que le diagnostic pour ton enfant a été posé assez tôt, et que, c'est que récemment qu'on parle de ces symptômes, de ces symptômes et de ces troubles. Ça fait pas beaucoup de temps, hein.
Sur l'hyperactivité, si. On en parle depuis un moment.
On en parle depuis un moment, mais tout de suite, on va les mettre sous médicaments, Philippe. C'est-à-dire qu'on va régler le problème d'une manière chimique.
Ritaline ou pas.
Voilà, Ritaline ou pas. Mais on ne rentre pas dans qu'est-ce que vit cet enfant. C'est seulement avec l'arrivée aussi et la vulgarisation, je vais dire ça comme ça, et la démocratisation des outils de neurosciences qu'on arrive maintenant et qu'on trouve sur le net des conférences qui parlent de ça, où on va déculpabiliser les parents et dire attendez, c'est pas votre éducation qui est mise en jeu, c'est pas de votre faute. En plus, c'est héréditaire, donc c'est génétique. On se rend compte que forcément, un des deux parents est porteur aussi de ce trouble-là, et donc de pouvoir travailler dessus, d'avoir vraiment des outils. Je me souviens d'une expérience, Philippe, que j'ai eue avec un jeune garçon de 9 ans qui, alors je vous dis, hein, quand il arrive au bureau, il me retournait mon bureau. Mais je savais, j'ai ce temps-là avec lui. J'ai dit, allez, moi je me mets aussi, je suis un peu hyperactive aussi, voilà, en mode tornade. J'avais demandé à la maman d'aller voir, parce que moi je suis pas neuropsychologue, de demander de faire des tests, une batterie de tests, juste pour qu'on puisse, parce que avec cet enfant j'ai pratiqué toutes les thérapies en fait cognitives et comportementales, et notamment de libération émotionnelle, de EFT, bref, de neurothérapie. Et ce petit garçon était inscrit, donc la maman m'avait inscrit à l'hôpital, donc le Robert Debré. Et ce jour-là, mais vraiment, l'hôpital m'appelle et il me dit, mais madame, voilà, on a eu vos coordonnées par la maman du petit. Donc c'est le professeur qui m'appelle et il me dit, voilà, on voudrait savoir parce que on a remarqué des changements. Alors moi, j'ai dit, oh là là, ça y est, c'est le professeur qui m'appelle. Moi, dans mon petit cabinet, à faire un peu de EFT, de mouvements oculaires, de tapping, de clapping, des choses comme ça. Et il me dit, écoutez, on a eu des résultats incroyables. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Je dis, voilà, moi je fais un peu de neurothérapie. Neurothérapie, c'est peut-être un mot un peu, voilà, d'accord, un peu grand. Mais dire simplement que, pourquoi je dis ça? Pour dire aux parents que ce n'est pas une fatalité. Et que si votre enfant exprime telle ou telle chose, et comme toi Sabrina, tu as accompagné ton enfant, et que tu accompagnes aussi d'autres familles, de dire, c'est pas une fatalité, il y a des solutions, et il y a... Quand on a compris ce qui se passe et comment ça fonctionne, comment ça se déclenche, comment ça se maintient, comment l'aider à réguler tout ça, tout se passe bien.
C'est ça. C'est vrai que c'est un trouble dont on dit qu'on ne guérit pas, mais néanmoins, on peut moduler l'intensité du symptôme. Et ça, c'est important. Parce que moi, avec tout ce que j'avais mis en place, si tu veux, on a tellement amélioré la situation... que ça devenait vivable, que ce soit à l'école ou à la maison. Il y avait moins d'anxiété, on a amélioré sa qualité de sommeil, par exemple, les relations avec les autres se passaient mieux aussi. Donc c'est vrai ce que tu dis, à partir du moment où tu comprends le trouble, c'est pour ça que dans la première partie, j'explique bien ce que c'est, pour que les gens comprennent. Et du coup, quand tu sais de quoi il retourne, tu peux proposer des choses et l'aider à ce que il le vive mieux. Oui. Et c'est vrai que quand plus tôt ils sont pris en charge, et j'ai eu la chance, c'est vrai en ce sens que finalement il a été diagnostiqué tôt, du coup j'ai pu mettre en place des choses sur la durée. Tu vois, aujourd'hui il a 19 ans et il s'en sort très très bien, parce qu'on m'avait fait des tableaux apocalyptiques aussi.
Ça qui est terrible. Donc, voilà. Et de voir.
Ouais, et encore qu'il n'y a pas énormément d'études pour savoir ce que deviennent les enfants TDAH. Comment ils deviennent adultes? On en parle enfant, mais on n'en parle plus adulte.
Oui, c'est vrai parce que, en fait, notre génération.
Ils sont dans la nature,
ils sont Mais oui, parce que du coup, on n'en guérit pas, très peu.
Donc,
en réalité, ils se sont adaptés pour la plupart à leurs troubles.
Oui.
Ou pour certains, ça se passe moins bien, malheureusement.
Mais ils se sont adaptés, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on s'adapte aux troubles.
Oui, et puis ils peuvent aussi faire
avec des stratégies de contournement.
On va les retrouver, notamment, je me souviens, j'avais reçu une personne qui elle ne savait pas. Alors moi, dès qu'elle a commencé à parler, comment elle est installée, j'ai dit, je crois que j'ai affaire à quelqu'un qui a un trouble et avec un déficit de l'attention et qui est dans plusieurs métiers. Vous voyez, plusieurs métiers, parce qu'elle dit c'est ce qui me permet d'être vivante, ce qui me permet d'être et qui va papillonner sur différents trucs ou alors on va les trouver de grands voyageurs, de découvertes, pour justement canaliser cette énergie, parce que finalement quand cette énergie n'est pas utilisée, elle est un peu retournée contre eux, elle se transforme en anxiété, comme tu l'as dit, par de l'agressivité aussi parfois, des colères, donc ça c'est hyper important.
Il y a une théorie qui dit qu'on aurait survécu grâce au TDAH. Donc ça, c'est une théorie qui vient des États-Unis, dans le sens où, eux, ils n'avaient peur de rien, donc c'était les chasseurs. Oui. Alors que les autres étaient les cueilleurs. Mais donc, il fallait bien des cueilleurs et des chasseurs. Et donc, grâce au TDAH, on a pu améliorer la qualité de nos repas.
Déjà, nos ancêtres, avant les Game Boy, étaient hyperactifs. Au moment où on vous annonce le diagnostic sur votre enfant, vous refusez le traitement médical et médicamenteux. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous refusez la chimie?
Alors, c'est pas que j'ai refusé, c'est qu'on va dire que c'est arrivé tellement brutalement.
C'est la façon dont on vous l'a vendu vous avez refusé?
Oui, c'est ça plutôt. C'est-à-dire que c'était le premier entretien. Donc, le jour même où j'avais le diagnostic, c'est quand même un choc, parce que même si je m'en doutais, le fait que quelqu'un pose des mots, c'est que ça fait quelque chose. Voilà, en tant que maman, tu sens ton cœur qui est... Voilà. Et en même temps, il me parle de protocoles, de médicaments. Donc, c'était beaucoup trop d'informations pour moi le même jour. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai pas compris. Je pensais qu'il allait d'abord essayer de mettre en place d'autres choses. Enfin, je savais pas du tout. J'avais pas d'autres expériences.
Vous, en première intention, vous pensiez pas à une prise en charge médicamenteuse, en fait.
Non, je pensais
plus. C'est
ça qui
vous a surpris. Oui.
Oui, c'est ça. Je pensais plus justement aux thérapies cognitivo-comportementales, parce que je savais que ça existait. J'avais commencé à me renseigner dessus et ça me paraissait justement intéressant de les aider à développer des stratégies, etc. Mais on n'était pas du tout dans ce cadre-là. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais froide par rapport à ça. Et il s'est trouvé que, comme ça se passait pas très bien, j'ai changé de service hospitalier, j'ai changé d'hôpital. Là, on lui a refait toute une batterie de tests. Et là, on m'a dit que, de toute façon, il était contre-indiqué. Voilà, donc on m'a stressé pour rien.
Oui, la question se résolvait, d'elle-même. À quel moment est-ce que vous avez compris les besoins spécifiques d'un enfant TDA?
Ça a été progressif. Puisque je suis partie sur une quête, c'était devenu une mission, c'était devenu ma mission de vie. Je voulais trouver des solutions pour mon enfant. Donc plus j'avançais, plus je me renseignais, plus j'essayais de comprendre ce trouble. Quand j'ai compris que notamment les neurotransmetteurs étaient impactés, c'est-à-dire cette communication entre les neurones, avec cette dopamine notamment, mais aussi la sérotonine, qui était impliquée dans ce trouble. Donc j'ai essayé de comprendre par quel biais je pouvais agir sur les neurotransmetteurs de mon fils. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier, etc., les liens entre notamment le microbiote intestinal, le cerveau. Maintenant, on l'appelle le deuxième cerveau. À l'époque, on ne disait pas encore ça, tu vois. Donc,
Depuis, il y en a un troisième.
Oui.
Depuis.
Voilà.
On avait le ventre, notre deuxième cerveau. Maintenant, on a le cœur. Alors, maintenant, on en...
Moi, je dis que c'est le premier.
Ouais.
Pour moi,
ça,
le cœur.
C'est votre côté rebelle.
Ça, c'est ça, c'est mon côté.
Vous devez être rebelle en process comme Karima.
Oui, je suis au troisième.
Ah, vous voulez qu'on en parle?
Non. On attendra avec Patrick.
On va attendre
Patrick pour en parler.
Ah mais vous en avez parlé avec Patrick dans ce live. Bien, allez, on parle justement des enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui vous écoutent, Karima, le matin, mais aussi beaucoup de papas. Mais vous vous retrouvez peut-être un petit peu dans le tableau qu'on est en train de brosser sur ces enfants. On dit différents, mais en tout cas non, ce sont des enfants, voilà, ce sont des enfants qui sont, allez, hyper actifs d'une certaine façon, et on en parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous parlons donc des enfants avec un trouble de l'attention, mais hyperactif ou pas, et surtout de ce que peut apporter la naturopathie, et en quoi c'est un outil efficace pour accompagner ces enfants. Alors nous avons Karima Chadibaou qui est avec nous, et nous avons Sabrina qui est avec nous également, Sab Heurt, que vous suivez sur les réseaux sociaux, et qui vient présenter son premier livre. C'est un livre-outil hein, finalement, oui. Un outil qui n'existait pas, et puisque l'outil n'existait pas, vous l'avez inventé. Ça s'appelle l'enfant TDAH, en route vers le bien-être. On le trouve voilà. Sab, votre
Alors
votre
il est livre. En version numérique en fait sur mon site internet.
Voilà, il y a même des bonus numériques pour ceux qui veulent. Voilà,
oui, il y a trois audios qui l'accompagnent en fait avec mes conseils plus de maman. Là, on va dire que c'est le regard de la naturopathe, et j'ai voulu donner des conseils aussi avec mon regard de maman lié à mon expérience.
Bon, alors on a appris que il y avait un côté héréditaire de la maladie. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis peu, hein, d'ailleurs, sur l'hérédité de la maladie. Vous êtes intéressé au déficit de certains neurotransmetteurs, d'accord? Donc, une fois que vous avez l'information, comment est-ce que vous la prenez en charge en tant que naturopathe? Sur quoi est-ce que vous travaillez?
Alors, on va travailler en fait sur les grands piliers de l'hygiène de vie, c'est-à-dire qui sont l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et la gestion des émotions. C'est sur ces quatre axes-là qu'on va pouvoir essayer de combler en fait les besoins physiologiques de cet enfant. Donc, plus on va combler ses besoins physiologiques à ce niveau-là, plus on va lui permettre de tempérer et de sécréter davantage de neurotransmetteurs, d'avoir un microbiote plus équilibré. Donc le microbiote, c'est cet écosystème de bactéries hein, qui vit dans nos intestins et qui nous permet de digérer, d'assimiler, etc. Et c'est aussi dans là que sont fabriqués un grand nombre de neurotransmetteurs, puisqu'il y a une communication permanente entre le microbiote et le cerveau.
Absolument. Et j'ai trouvé intéressant dans la démarche de Sabrina, c'est vraiment... Ça veut dire que c'est facile à mettre en place à la maison. Par rapport à la nourriture, l'hygiène alimentaire. Quand
après il y a des trucs à supprimer quand même.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez supprimé par exemple comme produit
Moi j'aime pas tellement parler de suppression, je parle d'alternative.
Oui, on joue sur les mots là.
Non mais justement, on parlait de hacker son cerveau, Philippe.
D'accord,
alors on y est.
C'est-à-dire que j'ai commencé à moins acheter de sucreries, de paquets de gâteaux, etc. Et je faisais des choses plus maison. On a davantage consommé tous de fruits, de légumes, etc. Ça a été un changement familial, je dois préciser aussi, parce qu'on ne peut pas demander à un enfant...
Oui.
Lui de manger sainement si vous en face vous n'êtes pas un modèle.
Oui.
Donc moi j'avais commencé déjà par moi.
Tout le monde en train de manger une danette.
un paquet de chips.
Et toi, mange tes haricots verts.
Voilà, haricots verts, les chips ou les bonbons, des fraises flagada, tagada ou fagada, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin des fraises, voilà, sucrées. Et que lui, non, toi t'as un régime spécial, TDAH, donc tu manges pas ça. C'est terrible.
C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est mauvais pour les TDAH est aussi mauvais pour tout le monde en réalité. Puisque vous savez très bien que le sucre, voilà, a des conséquences hyper néfastes pour la santé de manière générale et notamment pour le cerveau en particulier.
Donc du coup, la question que je me posais, c'est par rapport à ton fils, même à l'école, parce qu'à l'école, des fois, ils font les goûters, ils font des choses comme ça avec des sucreries, des bonbons. Mmh. Comment est-ce que toi, tu gérais ça? C'est la même question, en fait. Moi, j'avais posé ça à une de mes patientes, par rapport à son enfant diabétique aussi, qui est prise en charge à l'école aussi. Et donc, est-ce qu'il avait un PAI aussi, c'est-à-dire un projet d'accueil individualisé par rapport à l'école et tout ça? Enfin, je me pose ces questions parce que ceux qui nous écoutent doivent se dire, comment on fait tout ça, quoi?
Alors, moi, il n'avait pas de PAI, il avait un PPS, projet de scolarisation personnalisée, donc où il y avait des aménagements scolaires qui étaient mis en place, etc. Par contre, au niveau alimentaire à l'extérieur, moi, je me disais, je partais du principe que je n'agis pas là où je ne peux pas contrôler.
D'accord.
Alors, tu vois, je me suis enlevé cette pression. S'il y a un anniversaire, tant pis, c'est le jour de l'anniversaire. Après, c'est pas tous les jours.
Oui.
Donc voilà, je partais du principe que l'essentiel de son alimentation allait être bonne pour lui et qu'après, il y aurait des exceptions en fonction des événements. Et je pense qu'il faut rester souple, tu vois, parce que sinon, après, on rentre dans quelque chose qui devient très complexe à gérer pour les parents.
D'accord, ok. Parce que pour ceux qui nous écoutent, quand on dit on rentre dans une démarche de suivi d'accompagnement naturopathique, de dire voilà, parce que beaucoup pensent que la naturopathie, oh là là, on arrête de manger des gâteaux, non. On arrête de manger ceci, on arrête de manger cela, on mange que bio, on mange que... Et donc là, de dire que tu adaptes par rapport donc au contexte, par rapport aussi aux besoins de l'enfant, par rapport peut-être aussi à son état émotionnel.
Bien sûr. Tout ça entre en compte, exactement. Il faut vraiment beaucoup de souplesse. D'accord. Surtout avec un enfant, c'est vraiment important. C'est pas un adulte, donc tu vois, il peut pas comprendre que. Et puis déjà, il se sent différent. Donc si en plus à l'extérieur, même quand il y a un événement festif, il peut pas être comme les autres, ça devient très compliqué. Mmh. Donc moi, voilà, je me suis dit, à la maison, on va faire le maximum. Après, quand il est à l'extérieur, c'est pas grave.
D'accord. Et dans ton livre, tu parles aussi de la phytothérapie. Mmh. Donc moi, j'aime beaucoup ça aussi. J'ai même pensé à quelle pierre. Hein, la gémologie aussi, donc la lithothérapie, des pierres qui peuvent aussi aider justement à canaliser, parce que bon, c'est les thérapies vibratoires hein, qui vont aider justement l'enfant et aussi le parent, parce que lui aussi il a besoin d'être, c'est un marathon, hein donc il faut être aussi en forme hein, pour suivre l'enfant, pour justement l'aider à canaliser ses émotions et donc tout le côté psycho-émotionnel en fait, les huiles essentielles aussi, l'aromathérapie, des choses qui peuvent aider justement à... qui va agir en fait sur son sur le cerveau limbique, sur les émotions pour l'aider à canaliser et à justement aussi se concentrer quand il en a besoin, quand il, j'imagine, quand il devait passer ses évaluations, quand il a passé son bac. Il a passé son bac, oui.
Non, ça c'est mon deuxième.
Ça c'est le deuxième.
Ouais. D'accord. Mais oui, il y a plein de plantes qui peuvent aider, qui peuvent apaiser les enfants. Mais moi, je considère toujours que les compléments, c'est la cerise sur le gâteau, d'accord. Tu vois, et qu'il faut le gâteau. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle, tu vois, il n'y a pas une plante miracle, bien sûr. Si tu mets déjà en place une bonne alimentation, qu'il a un bon sommeil, qu'il fait suffisamment d'activité physique, tu vois, qu'il arrive à mettre des mots sur ses émotions et qu'en tant que parent, tu arrives à en parler avec lui, si on met déjà tout ça en place, on a énormément de progrès qui sont faits. Et après, par-dessus, effectivement, là, on a certaines plantes, comme je pense notamment au romarin, par exemple, le romarin cinéol, dont les vertus sur la concentration ont été prouvées. Il y a eu plein d'études scientifiques. Donc, voilà.
Il agit même sur l'Alzheimer. Hein.
Ouais, ouais.
Non, le docteur Willem. Quand j'ai vu ça dans votre livre, j'ai pensé au docteur Willem, mais en direct. Donc, c'est pour ça. Je dis, ah. Mais il est rare, c'est pour ça. Et comme il est de plus en plus populaire, c'est toujours pareil. C'est que la popularité aujourd'hui de ces plantes font qu'elles sont de plus en plus rares. La naturopathie, ça ne soigne pas le trouble. C'est ça qu'il faut expliquer. Oui. Hein. Ça aide à prendre en charge les symptômes.
C'est ça. Hein. Pas vrai. Enfin, je dirais pas juste prendre en charge les symptômes. Je dirais que ça sert à répondre aux besoins de l'enfant. Donc, si on répond à ses besoins, ça va mieux se passer. Oui. Parce que vous imaginez que s'il a déjà ce trouble et qu'en plus, on ne répond pas à ses besoins, les symptômes vont être démultipliés, en fait. C'est ça qu'ils font comprendre, en fait. C'est pour ça qu'entre deux enfants qui ont typiquement, on va dire, les mêmes symptômes, s'il y en a un qui a une bonne hygiène de vie et l'autre qui ne l'a pas, celui qui n'a pas de bonne hygiène de vie, il va avoir des symptômes qui vont être vraiment beaucoup plus forts et beaucoup plus invivables que l'autre. C'est une réalité que j'ai vécue, ça. C'est vraiment impressionnant, la différence.
Vous avez pu mesurer les résultats.
Ah oui.
Et en plus, développer aussi chez certains enfants, s'ils sont... plus anxieux, donc ou plus agressif avec un tempérament colérique, qui vont développer soit de la violence, soit de l'anxiété, donc une dépression aussi, hein, et donc il va affecter directement l'estime de soi. Et souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants, justement, atteints de ce trouble, vont développer, en fait, une mauvaise estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire ne pas connaître leur valeur personnelle. Là où je vais, je dérange. Mmh. Là, je suis pas voulu. J'ai pas ma place. Dans ma fratrie, avec mes parents, ma mère, elle me dit que tu dois te tenir comme ça. J'ai la liste de tout ce que je dois faire, de comment je dois me comporter. Et puis, mon frère ou ma sœur à côté, non, c'est open space pour lui. C'est tout va bien. Donc, c'est des situations d'injustice. Et qui peuvent développer chez l'enfant donc comme un rejet, une blessure de rejet, une blessure. Donc ça, c'est faut être très vigilant par rapport à ça. Et il est capable de comprendre, de dire ben voilà, on est tous uniques et différents. Et donc toi, dans ton unicité, voilà comment ça se passe. Et voilà ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour que ça se passe bien.
Qu'est-ce que vous avez dit à votre petit garçon? Parce qu'on croit toujours que les enfants qu'on amène à l'hôpital, qui font plein d'examens, qu'on peut parler devant eux sans qu'ils comprennent. Alors que les enfants comprennent très très bien. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour lui expliquer son trouble? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme mot?
Alors, j'ai plus le souvenir exact, mais en tout cas, je sais que je lui ai très vite expliquer les choses en
fait. Parce qu'il vous a demandé pourquoi ?
Ben pas vraiment. Il se trouvait que, parce qu'il y a plusieurs types de tempéraments, moi c'était un tempérament introverti le mien.
D'accord.
Donc moi c'était pas quelqu'un qui mettait des mots, cet enfant-là. Donc justement il fallait l'aider. Et pour cela, ben, je lui ai expliqué, voilà, toi tu es différent parce que voilà, tu vas plus vite, etc. T'es plus costaud, tu vas plus loin, tu comprends plus vite en fait. J'ai essayé de donner le versant positif de ce qui est soi-disant un symptôme en fait. Hein, parce qu'en réalité, c'est considéré comme un handicap invisible, mais dans notre société. Je veux dire, si je l'emmène dans une tribu papou au fin fond de l'Afrique, croyez-moi qu'il n'a pas d'handicap.
Ouais, c'est clair.
Il va très bien se débrouiller.
La question du contexte.
Voilà.
C'est approprié ou pas au contexte.
C'est ça. Donc c'est vrai que voilà, ça pose plein de questions aussi philosophiques, hein, parce que finalement, voilà, à partir de quand on rentre dans la norme, qui l'a définie, pourquoi. Et c'est ça, en fait, c'est plus une singularité, mais... dans ce monde, on a peut-être besoin de chacun et que voilà.
Ah bah oui, ça,
absolument.
Et on en parle tous les mercredis. Et on a quand même la chance de vivre dans une société qui s'est quand même réveillée sur tous ces sujets. Imaginez qu'à 40 ou 50 ans, les enfants, ils passaient sous les radars. Hein.
Ah, c'est ça, c'est clair.
Bah oui. Qu'est-ce qu'il a fait comme scolarité, votre petit garçon ?
Alors, du coup.
Parce que c'est, vous êtes posé la question de savoir si vous deviez le maintenir en classe ou pas.
Ah bah oui, ça s'est posé parce que l'école et lui, clairement, voilà, c'était pas une grande histoire d'amour et je pouvais comprendre. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai compris, voilà, moi qui étais l'élève parfaite, qui avait suivi tout le circuit, tu sais,
l'enfant modèle.
Voilà, c'est ça. J'ai dû, voilà, un peu, voilà, me challenger au niveau de mon propre cerveau. Ces enfants-là vous transforment hein, en tant que parent. Vous aviez des idées bien arrêtées sur certaines choses. Là, il va vous faire voir la vie d'une façon, mais totalement différente. Et j'ai compris que j'allais pas le pousser vers ce qui, de toute façon, ne lui apportait aucun plaisir et était plutôt une source de souffrance pour lui. Donc, finalement, il a trouvé sa voie après avoir été déscolarisé pendant 2 années.
À quel âge ?
Il avait 17 ans.
Oui, en fin de parcours.
Oui, en fin de... Ah, oui.
Il a quand même eu un parcours.
Ah oui, il a eu un parcours linéaire. Il a franchi
linéaire.
Toutes les
Oui,
tout, il a franchi toutes
jusqu'à
les classes.
Jusqu'à quelle classe ?
Jusqu'à la classe de première. Voilà. Donc, et puis finalement, voilà, je voyais que je me disais, ça mène nulle part. Finalement, il a tenté la voie professionnelle. On a testé. Il n'avait pas trop d'idées. Ça lui a pas plu. Donc je lui dis, c'est pas grave, au moins on a tenté. Donc on s'est pas trop pris la tête. Et ensuite, ça a été compliqué parce qu'on a déménagé plusieurs fois et ça s'est passé en même temps qu'il y a eu ce déménagement. Donc bon, le passage de la région parisienne à la Normandie, ça a été un petit peu douloureux. Et du coup, je lui ai laissé après le temps et je lui ai dit, écoute, quand ça va venir, ça va venir. Il a voulu faire un voyage en Afrique parce qu'il avait un ami qui était comorien. Il était aux Comores. Et quand il est revenu du Comore, il m'a dit, ça y est, je sais ce que je veux faire. Il n'y a aucun rapport entre son choix et les Comores, mais néanmoins, ça l'a guidé. Donc en fait, il m'a dit, voilà, je veux être garde du corps. Oui. Alors j'ai pensé que c'était un hommage à sa maman, parce que vu que j'ai passé son enfance à le protéger des dangers.
Donc, en fait, si ça vous arrange, pensez-le.
C'est ça. Donc en fait, il vient d'obtenir juste là, son d'accord. titre professionnel d'agent de sécurité privée. C'est la première étape et ensuite il va pouvoir passer à garde.
De l'utilité des voyages, on dit que ça peut, alors maintenant on utilise l'expression de voyage transformationnel.
Absolument.
Karima. Mais c'est vrai que parfois un voyage et de vous sortir de votre milieu quotidien, ça peut vous remettre les idées en place. Hein.
Complètement. Complètement. Ben en tout cas, pour nous, ça a été totalement salutaire. Et là, il s'est mis à fond parce que je me suis dit, t'es sûr, etc.
C'est une lubie, ouais.
Ouais. Et du coup, il est rentré en centre de formation, mais je ne l'ai pas reconnu.
Ouais.
Je suis dans sa chambre.
Oui.
Il y avait des cahiers ouverts partout.
Oui.
Que se passe-t-il? Je lui dis, pince-moi, la chérie, c'est pas possible. Et effectivement, en fait, quand ces enfants-là, quand ils trouvent leur voie, ils sont à 300%.
C'est ça, c'est magnifique.
Bien, alors, Karima, remontrez, s'il vous plaît,
le livre numérique,
voilà.
L'enfant est
maman a travaillé, voilà, elle fait partager son expérience,
Sab
Heurt sur les réseaux sociaux.
Oui, suivez-la sur son Instagram, franchement, elle fait des lives aussi.
Oui, régulièrement.
Régulièrement et de belles choses, quoi, voilà.
Merci d'avoir été avec nous. Merci Sabrina d'être venue jusque nous.
Merci.
On vous retrouve mercredi. Karima, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et puis vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.